Il est 8h07, vous écoutez la seule émission diffusée avec amour en direct d'Alma. On a beaucoup de plaisir en ce mardi matin, j'allais dire lundi encore une fois, hein, des fois ça nous surprend. Et justement, mais on avait pris une habitude au courant des dernières semaines. Le lundi, on aime ça commencer notre semaine en débriefant la fin de semaine avec Jean-Marc Fradette. Maître Jean-Marc Fradette est au téléphone justement ce matin pour continuer cette habitude-là de début de semaine. Bon matin Jean-Marc, comment ça va?
Ça va bien, c'est la rentrée judiciaire aussi cette semaine.
Ah, il y a une forme de rentrée également au Palais de justice?
C'est la remise en marche du système qui, l'été, même s'il fonctionne, n'est pas en plein régime. Donc, c'est la rentrée judiciaire, l'appel des causes devant jury que vous allez avoir le 5, à Chicoutimi, le 5 septembre. Et par la suite, là, on fixe les dates pour les procès de meurtre. Cette année, il y en a 3 qui vont être fixés. Donc, c'est vraiment la rentrée judiciaire. Et par la suite aussi, le barreau fait sa rentrée judiciaire avec le système judiciaire vendredi. Et là, c'est la mise en marche pour le reste de l'année.
Parmi les dossiers qu'on voulait aborder avec toi ce matin, Maître Fradette, il y a cette alerte à la bombe, cette fausse alerte à la bombe qui s'est passée hier du côté de Saguenay. Bon, après avoir jasé avec les policiers, on s'est rendu compte que c'était un individu qui avait probablement des problèmes de santé mentale qui, avait fait cette alerte-là. Jusqu'à quel point on peut utiliser le mot santé mentale, en fait, pour déterminer tout ça?
Ben, on n'a pas de choix du côté des policiers, peu importe l'état dans lequel est la personne, et s'il est connu, les policiers ne peuvent prendre aucune chance. Et c'est là qu'il y a le pas de l'est, parce qu'on monopolise beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources policières et des ressources économiques, parce que ça coûte très cher, pour être certain que c'est vraiment quelque chose de faux, même si on s'en doute fortement. Les policiers, malheureusement, sont obligés de mettre en branle les protocoles dans ces cas-là, et ça cause bien des problèmes, malgré qu'on puisse penser à la base que c'est nécessairement faux, parce que c'est une question de maladie mentale. Les policiers vont tout faire pour rassurer la population, éviter aussi quand les urgences se mettent en branle, il peut y avoir des accidents. Donc, c'est pas la bonne chose à faire, de faire des fausses alarmes, mais quand c'est un problème de santé mentale, les policiers vont agir exactement de la même façon que si c'était parfaitement sérieux.
Oui, mais c'est pas quelque chose qui passe comme une lettre à la poste, là, je veux dire, à l'individu qui a fait
on va porter des accusations du côté de la couronne, même si on sait qu'il y a des problèmes de santé mentale, justement pour utiliser les ressources prévues au code criminel pour les envoyer faire des thérapies ou des vérifications au niveau de la santé mentale, s'il est apte à comparaître, apte à subir un procès. Et le système judiciaire est bien outillé là, quand on accuse un individu comme lui, pour mettre en branle ce système de protection de l'accusé lui-même. Et si jamais il n'a pas de problème de santé mentale, ben là, il y a en cours des responsabilités criminelles importantes et de la détention aussi, généralement, parce que des fausses alarmes, ça cause beaucoup d'ennuis et beaucoup de dangers pour la population, beaucoup de craintes.
Il y a un autre dossier qui est très intéressant ce matin, j'ai hâte d'entendre ton avis là-dessus, c'est la responsabilité des chiens. Parce que, bon, on va se le dire, depuis plusieurs années, il y a eu des attaques qui nous ont marqués au Québec, des attaques de chiens dangereux. Et là, c'est un regroupement de gens qui ont été attaqués justement par des chiens dangereux qui disent qu'ils se sentent pratiquement comme si la responsabilité de l'attaque leur revenait à eux sur les épaules et qui aimeraient être capables de faire des poursuites à l'encontre des maîtres des chiens qui ont fait ces attaques-là. On dirait que je comprends pas ce qui se passe là-dedans. Pas poursuivre quelqu'un à cause que son chien nous a attaqué?
Non, mais en fait, il faut départager deux situations. La situation où le maître, par négligence criminelle ou volontairement, va faire que son chien va attaquer une personne. Donc, si un chien est réputé dangereux, ou même si on se doute que notre chien, parce qu'il file pas pour des raisons de santé ou autre chose, puisse être dangereux, si on le laisse libre et qu'il attaque des gens, on peut se faire poursuivre au criminel. C'est une responsabilité criminelle qu'on a envers nos propres animaux. Si on a des raisons de craindre qu'il pourrait frapper des gens, mordre des gens et les blesser, on a cette obligation-là, parce que c'est la négligence criminelle ou la mise en péril de la sécurité d'autrui, si on connaît la situation du chien. Si par contre, c'est un chien qu'on n'a pas de raison de croire qu'il va qui va attaquer quelqu'un, et qu'on respecte les réglementations quant à la laisse, la corde, les lieux où on peut en avoir, etc. Si tout ça est respecté et que le chien attaque quand même quelqu'un, ces personnes-là ont un recours en civil, et ça arrive régulièrement que les gens qui sont attaqués par des animaux poursuivent au civil et ils obtiennent gain de cause, parce que lorsqu'il y a des blessures, il y a un dommage, même si le chien, le maître ne pouvait pas prévoir l'attaque, il est responsable de son animal, c'est de la responsabilité civile, et il va être condamné à payer si on établit qu'effectivement c'est sa bête et que la personne mordue n'est pas responsable. Bien sûr, si la personne mordue est responsable, la poursuite ira pas très loin, mais en général, les chiens qui attaquent des gens, les personnes qui sont attaquées sont rarement responsables de cette fête attaquée. Et dans ces cas-là, la responsabilité civile est complète envers le propriétaire du chien, et pour ces raisons-là, c'est bon qu'ils sachent, ces gens-là, que oui, ils ont déjà des recours de nature civile en dommage et intérêt.
Si le propriétaire du chien est bel et bien responsable de l'attaque, on se contente d'une amende, il n'y aura pas de prison pour ça.
Non, qu'il soit responsable ou non de l'attaque, le maître, s'il en est responsable parce qu'il a laissé son chien qui était dangereux attaquer les gens, oui, il pourrait y avoir la poursuite criminelle. Mais s'il n'en est pas responsable au niveau criminel, il en est quand même responsable au niveau civil et il sera condamné pour la poursuite civile qui sera poursuivie. Parce qu'on n'a pas à prouver que le propriétaire devait connaître l'attaque du chien en civil. On doit simplement établir le lien causal entre la bête qui appartient à quelqu'un, l'attaque de la personne et le dommage qui est blessé. Et ça suffit en civil. En criminel, ça va prendre évidemment une connaissance de la dangerosité ou une négligence importante dans cette connaissance de la dangerosité qui amène l'attaque du chien. Les deux distinctions qui sont importantes.
On dirait que je comprends vraiment pas, donc, c'est quoi les revendications de ce groupe-là? On dirait que c'est simplement aussi, pour faire jaser ou...
Moi aussi, je ne le comprends pas parce que ça existe déjà. Tous ces recours-là existent déjà. Et est-ce qu'ils veulent mettre peut-être de la pression sur les municipalités pour engager de nouveaux règlements sur la race de chien qu'on a le droit d'avoir ou les lieux où on doit les avoir? C'est beaucoup plus dans ces circonstances-là qu'on pourrait croire que leur mouvement puisse avoir une importance.
Ouais, OK. Donc, ce qu'on voit passer ce matin, c'est un peu tendancieux parce que ça nous laisse croire qu'il n'y a pas de mesure pour les gens qui ont été victimes d'une attaque de chien de revenir contre les propriétaires. Or, ce n'est pas le cas.
C'est faux. Il y a des mesures et ils sont très connus. Ça arrive très régulièrement. Ce n'est pas quelque chose de rare, les chiens qui attaquent les gens. Et ce n'est pas quelque chose de rare, les gens qui poursuivent les propriétaires de chiens. Souvent, ça arrive avec les enfants. Les enfants se font mordre. Et le propriétaire, même si l'enfant a joué avec le chien, le propriétaire est responsable de sa bête. Un enfant, on doit s'attendre à ce qu'il joue avec un animal. S'il est mordu, on ne peut pas prétendre que l'enfant est responsable de l'attaque.
Ah ben, ça éclaire encore mieux la situation, donc c'est comme l'impression qu'on essaie de nous passer un petit savon là-dessus. Merci Jean-Marc. Ben oui, mais merci d'avoir mis un petit peu de douceur dans notre journée. On n'est pas obligé de se choquer contre cette nouvelle-là matin. Jean-Marc
Fradet. Bon, début d'année judiciaire, on va se parler toute l'année, je pense. Alors, on va suivre chacune des nouvelles et vulgariser le plus qu'on peut pour que les auditeurs saisissent qu'est-ce qui se passe dans le système.
Tout à fait, Jean-Marc. On te souhaite une très, très bonne rentrée judiciaire. Salutations à tous les collègues.
Bonne journée.
Et bonne journée, oui. Maître Jean-Marc Fradet, si vous avez besoin, vous voyez, c'est assez simple. On sait les choses. Si on a besoin de connaître un dossier, puis s'il y a quelque chose...